avec Jean-Pierre Bibring, astrophysicien à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Je voudrais revenir sur l'explication concernant Valles Marineris, parce que c'est quand même une déformation géologique extraordinaire sur la planète. Vous l'expliquez comme étant une cassure du manteau, de par le poids même de ce complexe volcanique qu'est Tharsis. Donc comme une brisure, comme une rupture du sol.
À nouveau, souvent, la sémantique est trompeuse. Comme on parle d'un réseau de gorges, sur Terre, on sait bien qu'une gorge, c'est fabriqué par de l'eau qui coule dans un terrain meuble qui peut éroder. Donc, pendant très longtemps, les gens ont pensé qu'effectivement, Tharsis procédait aussi d'une érosion par de l'eau qui a coulé.
Comme le Grand Canyon.
Comme le Grand Canyon. Et en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que si de l'eau a coulé, elle a pu emprunter le canyon. Mais ce canyon a déjà été formé avant, comme en fait un rift, comme une, à nouveau un phénomène purement tectonique lié à cette surcharge pondérale très forte de Tharsis sur la croûte. Donc les géologues sont à peu près tous convaincus que c'est de ça qu'il s'agit. Si ensuite, bien sûr, de l'eau est arrivée, l'eau va bien sûr aller dans les endroits les plus accessibles à elle et a très bien pu emprunter ici ou là certaines des ramifications de Tharsis. Mais Tharsis n'a pas été, le Valles Marineris n'a pas été formé par une érosion par de l'eau dans un plateau calcaire. C'est une ouverture d'un champ parfaitement volcanique et magmatique qui éventuellement après a pu être emprunté par de l'eau.
Alors après ce deuxième épisode, cette seconde période de l'histoire de Mars, il y en a une troisième qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui.
Après que l'eau localement ait pu arriver en surface et dont on a la trace par ses sulfates, je dirais qu'à grande échelle et sur de grandes périodes, pour l'essentiel, plus rien ne s'est passé. Il y a eu cette oxydation très lente par les peroxydes de l'atmosphère, mais au niveau géologique, très peu de choses sont passées. À quelques exceptions près, malgré tout, mais qui, là, pour le coup, ne se voient pas dans la signature minéralogique. Le volcanisme a bien sûr continué à la surface de cette planète parce que lui, ce volcanisme de surface ne fait que tracer, faire la signature de ce qui se passe dans le manteau profond, et le manteau a continué bien sûr par la radioactivité uranium, thorium, potassium à être actif jusqu'à aujourd'hui. Et donc il y a eu, exactement comme pour sur Terre vraisemblablement, un volcanisme de points chauds qui s'est formé, et ici ou là dans le magma il a pu y avoir des éruptions qui sont soit arrivées à l'endroit où il y a eu des volcans et donc on a eu des éruptions volcaniques, soit éventuellement dans des endroits un petit peu éloignés des volcans, du magma a pu monter et il a pu y avoir une trace en surface de ces manifestations profondes volcaniques. En particulier, il y a quelque chose d'intéressant sur Mars, c'est que Mars, bien sûr, on le sait bien, tourne autour d'elle-même en à peu près d'ailleurs 24 heures. Il y a un jour martien autour d'un an qui aujourd'hui a fait à peu près 25 degrés. Cette obliquité martienne, on sait bien qu'elle n'est pas stabilisée par une lune de grande masse. Et donc, l'obliquité martienne a pu changer au cours du temps. Et parce que l'obliquité a changé, les pôles eux-mêmes ont pu voir de la glace qui est partie des endroits actuels pour aller se recondenser ailleurs. Et donc, très vraisemblablement, au cours de l'histoire de Mars, des glaciers, pas très épais, mais de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres, ont pu se former ici ou là. Eh bien, on s'aperçoit que des glaciers formés comme ça, avec des obliquités qui changent, plus des éruptions volcaniques ou des montées de fronts magmatiques en tel ou tel endroit, ont pu donner naissance à des structures en surface. Donc, quand je dis que dans cette troisième ère, rien ne s'est passé, c'est bien sûr aller un petit peu trop vite en besogne. Il ne s'est rien passé d'une manière pérenne, globale à cette planète sur de longues périodes, mais il y a eu localement des événements liés en particulier à cette apparition-disparition de glace couplée très souvent à des affaires volcaniques profondes qui donnent accès à des vallées de débâcle, à des vallées d'écoulement que l'on voit encore aujourd'hui à la surface.
Où est-ce qu'on a le plus de chances de trouver des précisions sur cette période? Est-ce que c'est au pôle où là sont stockées de grandes quantités d'eau ou est-ce que c'est ailleurs?
Non, c'est ailleurs pour l'essentiel. On le trouve aujourd'hui, il y a des vallées actuellement sur des latitudes beaucoup plus faibles que les latitudes polaires qui montrent qu'effectivement au cours du temps, et ça on reconstitue bien l'histoire climatique de la planète de ce point de vue-là, quand vous avez sublimation ou évaporation des glaces des pôles, elles vont se condenser dans des endroits très particuliers de la planète que l'on reconstitue aujourd'hui parce que la circulation atmosphérique n'est pas très à ce point compliquée sur Mars. Il n'y a pas d'effet papillon comme sur Terre parce que une fois que vous avez l'obliquité, l'endroit où est le Soleil et la topographie de surface, vous pouvez reconstituer pour l'essentiel la circulation atmosphérique. Et donc, on peut imaginer comment, au cours du temps, l'eau a pu se recondenser. Il y a, en particulier en France, une école très, très efficace pour reconstituer le climat passé qui montre qu'effectivement, il y a eu des glaciers qui sont formés dans le temps et des glaciers qui ont pu se former et disparaître. Eh bien, on s'aperçoit que là où il y a eu disparition de ces glaciers, les images, en particulier de la caméra HRSC de Mars Express, montrent les effets de cette évacuation rapide de la glace par des vallées, pas tant par des vallées d'écoulement que par des glaciers, je dirais, d'écoulement qui ont laissé des structures à la surface.
Il y a une bonne quantification maintenant de la quantité d'eau restant sur Mars, entre autres grâce à Mars 6, hein, qui est un des instruments de Mars Express. On dit que si l'ensemble de cette région en particulier, hein, donc le pôle sud de Mars fondé, le volume de glace distribué en eau liquide recouvrirait la planète d'une épaisseur de 11 mètres d'eau, on a une bonne quantification d'où est l'eau aujourd'hui, de ce qu'elle représente par rapport à la planète et une bonne idée, je veux dire, présente et argumentée aujourd'hui.
Alors, bien sûr, cette question d'évaluer les réservoirs aujourd'hui, aussi bien de l'eau que du gaz carbonique, est majeure, puisque c'est ça qui nous permet de reconstituer pour l'essentiel le cycle de ces constituants qui ont joué un rôle si important. À nouveau, pour le gaz carbonique, qui était le constituant majeur, le fait qu'on n'en trouve pas dans les glaces, très peu, qu'une toute petite pellicule au pôle sud qui ne représentait pas plus qu'un dixième de l'atmosphère actuelle, si ça parvenait entièrement dans l'atmosphère, le fait qu'il n'y ait pas de carbonate montre que l'essentiel du gaz carbonique a disparu. Pour l'eau, parce que l'eau se condense à plus haute température, on a encore deux énormes réserves, qui sont les deux grands glaciers, au pôle nord comme au pôle sud. C'est important de voir qu'en particulier, Mars Express a démontré que le pôle sud aussi est une énorme calotte polaire, faite de glace d'eau et non pas de gaz carbonique, à peu près équivalente en volume à celle du pôle Nord. Et c'est vrai que les réserves équivalentes de ces glaces-là, en termes d'eau liquide, représentent de l'ordre de la dizaine de mètres. La question, bien sûr, se pose maintenant de savoir est-ce qu'il y a d'autres réserves que ce que l'on voit. Et il y en a de deux types possibles. L'une, c'est de se dire, il y a de la glace dans le sous-sol, partout ailleurs éventuellement. Et c'est ce que les gens imaginaient, que les réserves majeures d'eau sont sous forme de glace souterraine, de permafrost, à toute latitude éventuellement. Et les deux radars qui sont actuellement en orbite autour de Mars, Mars 6 sur Mars Express et Charade sur MRO, ont vraiment comme objectif de faire la cartographie complète de la glace souterraine. Je crois que ce n'est pas erroné de dire que, au moins au premier ordre, Mars 6 comme Charade ont montré qu'il n'y a pas de réserve de glace souterraine. Et que même si on n'aime pas faire grand cas des découvertes négatives quelque part, je crois que c'est peut-être une des découvertes les plus importantes, qui était, en particulier avec Omega, on avait de grands indices que c'était le cas depuis longtemps. Mais en tout cas, je crois que Mars 6 et Charade le confirment, même s'il n'y a pas de démonstration définitive, parce qu'on ne peut jamais exclure qu'il y ait de la glace qui soit difficile à détecter.
Oui. Ça veut dire quoi, que c'est plutôt du permafrost, que c'est mélangé
non,
avec...
Non, ça veut dire que pour l'essentiel, le matériau souterrain est un matériau anhydre, c'est-à-dire que c'est de la roche avec très peu d'eau dedans. Là où on a détecté de l'eau, c'est réellement sous les pôles, mais pas à des latitudes beaucoup plus basses. On a découvert de l'eau en surface, mais sur quelques dizaines de centimètres, mais pas sur un kilomètre. Les réserves dont on parlait, c'était des choses qui auraient dû être à l'échelle de la centaine de mètres ou des centaines de mètres, si on voulait avoir l'équivalent du réservoir initial qui serait resté sur place. Sur Terre, on a 3 km équivalent aux échelles près, donc au rapport d'échelle près, on pouvait s'attendre à avoir plusieurs centaines de mètres sur Mars, plusieurs centaines de mètres équivalents sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire que dans certains endroits, on aurait dû aller jusqu'à quelques kilomètres. S'il y avait de telles quantités d'eau souterraine gelée sous forme de permafrost, probablement Mars 6 l'aurait vu. Or, actuellement, Mars 6 ne les a pas vus, sauf peut-être en liaison directe avec le pôle sud, mais d'une manière beaucoup, beaucoup plus ténue qu'on ne l'imaginait.
On peut voir sur certaines images de Mars des écoulements dans certaines caldeiras, certains cratères. Est-ce que ce n'est pas la
fameuse ravine,
la signature d'une présence d'eau?
Peut-être, mais d'abord, ce n'est pas sûr du tout, mais quand bien même ça le serait, ça pourrait vouloir dire qu'il y a de l'eau dans la surface immédiate. Pour faire ces ravines, on a besoin d'avoir de l'eau qu'à quelques dizaines de centimètres à la limite, ou un mètre, mais pas à des kilomètres, et certainement pas des centaines de mètres. Non, la première grande idée que l'on a actuellement, c'est qu'effectivement, l'essentiel des réserves de glace actuellement, d'eau, est sous forme des glaces polaires, mais pas dans le sous-sol. Le deuxième réservoir important, ça peut être sous forme précisément de ces roches hydratées qu'on commence à voir ici ou là. Et là, c'est difficile à évaluer parce qu'il n'est pas exclu que l'ensemble de la croûte martienne soit dans sa masse hydratée et que les argiles soient même relativement profondes, jusqu'à des dizaines de kilomètres. Donc ce réservoir de l'eau sous forme de roches hydratées peut être le réservoir dominant. On n'en a pas d'idée actuellement. On voit les roches hydratées que quand elles arrivent en surface, effleurées parce qu'un impact de cratère les a bien mis en surface. On ne sait pas si profondément dans la croûte, on n'a pas aussi une réserve d'eau importante comme ça.
C'est-à-dire un mélange là,
beaucoup plus intime,
beaucoup plus intime
de roches, ouais, qui porterait dans des roches magmatiques, des péridotites, qui pourraient porter des argiles jusqu'à des profondeurs de plusieurs kilomètres, voire des dizaines de kilomètres. Mais cette idée d'un permafrost est une idée qu'il va falloir, je crois, progressivement abandonner, parce que ça dit quelque chose d'important quant à l'histoire climatique de cette planète, c'est que ce qui n'a pas pu être mélangé à des roches par cette hydratation initiale est passé dans l'atmosphère et a été chassé de la planète en même temps que le gaz carbonique, en même temps que l'azote.
Alors, la question de la vie sur Mars est prépondérante. Vous nous avez expliqué que il fallait se poser la question de savoir si l'eau avait coulé suffisamment longtemps pour qu'une évolution biochimique puisse exister. Aujourd'hui, quand on regarde la carte géologique de Mars, où faut-il aller ?
Alors, bien sûr, tout dépend aussi de ce que l'on considère être les endroits les plus favorables, et donc quelque part ça a à voir aussi directement avec le modèle que l'on se forme de ce qui a fait que sur Terre, en tout cas, la vie a pu démarrer. On reste avec cette idée, un peu ce paradigme, que parce que sur Terre l'eau était l'ingrédient nécessaire, pas forcément suffisant, probablement sur Mars c'était la même chose. Donc bien sûr, ce qui nous conduirait à favoriser un endroit, c'est ceux qui sont le plus propices pour avoir hébergé de l'eau liquide stable. Il faut quand même réaliser que cette idée que l'eau est un constituant nécessaire, en tout cas pour Terre, c'est une idée qui, même si elle est ancienne, n'est aujourd'hui interprétée comme vraiment importante que très récemment. Vous savez que la raison essentielle pour pourquoi est-ce qu'on pense que l'eau était importante, bien sûr l'eau a des propriétés électroniques, je dirais elle-même, qui favorisent des liaisons chimiques, mais c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'atmosphère primitive de la Terre est une atmosphère qui filtrait très mal le rayonnement solaire dans l'ultraviolet, voire même dans le rayonnement X. Il faut se protéger contre ce qu'il y a de plus néfaste dans le rayonnement solaire actuel. Et on sait bien que ce qui aujourd'hui nous protège et fait que la vie est possible sur Terre, c'est parce qu'il y a de l'ozone à plus de 20 km d'altitude. Mais l'ozone est un constituant secondaire. Si l'ozone est là, c'est parce que notre atmosphère était capable de le fabriquer. Mais c'est parce que notre atmosphère a changé au cours du temps, c'est parce que l'oxygène moléculaire est arrivé. Mais l'oxygène moléculaire est justement un produit du vivant lui-même. Si bien que pendant plus de 2 milliards d'années, notre atmosphère ne protégeait pas la surface contre le rayonnement du soleil. Mais dès qu'on plonge un peu, on sait bien que dans l'eau, en revanche, le rayonnement ne pénètre quasiment pas. Donc l'eau, en fait, a été ce dans quoi le milieu était suffisamment protégé du rayonnement solaire pour que la chimie puisse conduire à une biochimie résistante.
C'est celui aussi qui permet les échanges, puisque dans l'eau
bien
liquide,
sûr,
on peut se déplacer.
Absolument. L'eau a bien sûr bien d'autres effets. Ça favorise les réactions chimiques, ça permet de les déplacer, ça augmente la capacité de réaction. Mais peut-être qu'il faut bien voir que la chose la plus importante, c'est que c'est un filtre remarquable. Donc, l'idée d'aller rechercher les endroits où un liquide était disponible, si possible de l'eau, est certainement pas une mauvaise idée, probablement une bonne, parce que l'eau est très abondante dans l'univers, était très abondante sur Mars comme le plus abondant et peut-être le plus facile à fabriquer à l'état liquide. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars ? À nouveau, nous sommes à peu près convaincus que si cette phase existait, il faut la chercher dans des terrains qui emportent encore la signature par l'existence de ces matériaux hydratés tout à fait particuliers qui sont ces argiles. Beaucoup plus que les sulfates. La grande chance que l'on a, c'est que précisément à la surface de Mars, parce que l'altération était très faible, les endroits qui ont été hydratés sous forme de ces argiles sont restés tels que depuis pratiquement 4 milliards d'années et qu'ils affleurent dans des endroits assez nombreux maintenant à la surface de Mars. Donc je dirais, si on veut savoir si la vie a émergé, eh bien on sait où aller chercher d'éventuelles bioreliques. C'est dans les endroits qui auront gardé la signature de ce moment-là sous forme de ces argiles.
Il y en a beaucoup ?
On a identifié plusieurs endroits, des grandes zones, qui sont assez faciles d'accès pour des sondes qui voudraient s'y poser parce qu'elles sont assez basses en altitude, assez peu rugueuses. Et donc, je pense que les deux grandes prochaines missions spatiales que l'on discute actuellement, qui sont la sonde américaine qui s'appelle MSL, Mars Science Laboratory, qui devrait partir en 2009, et ensuite la sonde européenne qui s'appelle ExoMars, si elles ont réellement comme objectif de choisir des sites qui, du point de vue de ce qu'on appelle l'astrobiologie, exobiologie chez nous en France, sont les plus intéressants, devraient aller dans ces quelques endroits que l'on considère porteurs éventuellement de la signature que l'eau a pu être stable. Et nous participons actuellement, avec à la fois les Américains et les Européens, à la définition et la sélection de ces sites. Si on se pose dans de tels endroits, et si on peut identifier des roches argileuses, alors peut-être qu'à l'échelle de ces échantillons maintenant, à l'échelle des grains eux-mêmes, on va trouver que sur ces argiles, exactement comme d'ailleurs sur Terre, c'est dans des endroits argileux qu'on a trouvé la trace des premiers organismes vivants, on va trouver le fait que des macromolécules organiques ont pu éventuellement évoluer jusqu'à des formes de biochimie. Il faudra pour ça avoir les bons instruments, mais je pense qu'effectivement, les découvertes récentes ont fait faire un pas considérable dans l'idée que la vie a peut-être pu exister sur Mars, parce qu'on a identifié les endroits où il a pu y avoir de l'eau liquide, et mieux que ça, on en a défini les localisations, qui ne sont pas du tout là où on s'y attendait. Actuellement, Pathfinder, par exemple, qui est pour moi l'exemple type de l'erreur qui a été faite, mais bien sûr pas machiavélique, sans qu'on le sache, Pathfinder cherchait un endroit le plus favorable pour que de l'eau ait coulé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les Américains ont choisi un delta au bout d'une vallée, dans un endroit où, à l'évidence, il aurait dû y avoir des alluvions et des terrains sédimentaires. Pathfinder se pose et n'a pas trouvé l'ombre d'un terrain sédimentaire, que des roches volcaniques, dans un endroit dont les structures photographiques vous dites « mais forcément, c'est là qu'il fallait aller ». Eh bien non. On sait aujourd'hui que les terrains qui ont pu abriter de l'eau sont des terrains qui n'en montrent pas la structure par les images. C'est des terrains dans lesquels, effectivement, des cratères ont pu mettre en surface des terrains qui ont gardé l'eau initiale sous forme de matériaux hydratés.
Restant quelque part une poche d'eau dans laquelle aurait pu continuer à se développer une vie qui se serait créée à un moment donné. Enfin, ça fait beaucoup de si, tout ça.
Il y a beaucoup de si, mais j'abandonne pas cette idée. Je pense que avec les découvertes qui viennent d'être faites, dans la dizaine d'années qui vient, on pourra effectivement se poser dans des endroits qui seront, de ce point de vue-là, les plus favorables. Je pense qu'on pourra aller dans des endroits, démontrer qu'éventuellement dans ces endroits, il y a bien eu de l'eau longtemps. On le verra par exemple parce qu'on devrait trouver, s'il y a eu de l'eau suffisamment, une petite partie du gaz carbonique aurait pu faire des petits précipités de grains de carbonate. Donc il se peut qu'on trouve des grains carbonatés dans ces argiles et avec des instruments qui iront bien, on verra s'il y a des molécules organiques qui vont avec. L'étape, bien sûr, après, ça sert de regarder si à l'intérieur de ça, il a pu y avoir l'émergence du vivant. Je pense que ça se fera surtout si on a la capacité de prélever de tels échantillons, de les ramener sur Terre et d'identifier avec ce qu'on appelle une mission de retour d'échantillons martiens que l'on projette actuellement pour d'ici 10-15 ans, voir si effectivement dans ces endroits qui seraient les endroits les plus favorables, il a pu y avoir des formations d'organismes qu'on verrait sous forme de microfossiles. Supposons qu'effectivement, il y a beaucoup de si là-dedans, cette démarche-là, qui n'est pas du tout utopique, aboutit à l'idée qu'effectivement, hasard et nécessité, le vivant a pu, parce qu'il y a eu de l'eau à un moment donné, donner naissance à des organismes extrêmement petits, probablement vraiment microscopiques, mais de type cellulaire peut-être, en tout cas de type vivant. Alors, cette découverte peut-être majeure de la biologie sur Terre, qui montre que lorsqu'un organisme vivant, pour certains d'entre eux, sont hors des conditions où le vivant peut réellement se dupliquer, c'est-à-dire être proprement vivant, on a pendant très longtemps pensé qu'à ce moment-là, l'organisme vivant meurt ou se fossilise. On sait maintenant qu'il y a une troisième possibilité de passer dans ce qu'on appelle le mode dormant. Le mode dormant, c'est que, vous savez, quand vous voyez des roches, on dit toujours si c'est rouge, c'est qu'il y a du fer, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de roches qui ont des couleurs qui sont les couleurs en fait de micro-organismes qui sont piégés dans les roches elles-mêmes, et qui sont là, en fait, en mode dormant. Et depuis qu'on le sait, il y a des gens dont le métier, c'est d'aller chercher ces micro-organismes qui ne se développent plus depuis qu'ils ont été piégés dans ces roches. Ça fait très longtemps.
Mais une sporulation qui pourrait durer aussi longtemps ?
C'est une vraie question. Il n'est pas exclu que ça peut durer sur des échelles de dizaines, de centaines, de millions d'années, peut-être. Et ce qui est fort, c'est que maintenant, certains sont capables de recréer la soupe dans laquelle, après s'être stoppé pendant si longtemps, la vie repart. C'est quelque chose qui donne des frissons, qui est remarquable. Ce mode dormant est peut-être une des grandes découvertes de la biologie des 20 dernières années. Pourquoi est-ce que c'est directement en relation avec ce que je viens de dire ? C'est que supposons que la vie ait démarré sur Mars et qu'à cause de l'évolution climatique, là où elle s'est formée, l'eau est disparue, a été se mettre ailleurs et que ces organismes-là, malgré tout protégés contre les effets létaux du rayonnement cosmique, aient pu passer en mode dormant. On ne peut pas exclure que si une partie de l'eau percolant dans le sol a donné naissance à de la glace souterraine et que localement, peut-être à l'échelle de pores, minuscule dans des roches, une partie de cette glace à forte profondeur soit sous forme liquide, on ne peut pas exclure qu'au gré d'un courant d'air, certains de ces organismes vivants en mode dormant se retrouvent dans des endroits où ils auraient tout ce qu'il leur faudrait pour que le vivant puisse se maintenir, si ce n'est durer. Et donc, à nouveau, supposant qu'on démontre que la vie a pu démarrer, la recherche d'endroits, même à petite échelle, où l'eau pourrait être stable à l'état liquide, ou aurait pu l'être de temps en temps à la surface ou probablement dans le sous-sol martien, pourrait conduire, à l'échelle des 15-20 prochaines années, à l'identification d'endroits où, même aujourd'hui, des modes dormants auraient pu être réveillés et la vie pourrait être encore aujourd'hui de la vie extraterrestre en train de se développer sur Mars. Bien sûr, le fait qu'on ne trouve pas de grandes zones de pergélisol, de permafrost, avec un grand océan souterrain, limite énormément cette possibilité. Mais rien ne dit qu'à plus petite échelle, de l'eau ne soit pas stable dans le sous-sol et que, si la vie a démarré, elle ait pu être suffisamment résistante pour perdurer jusqu'à aujourd'hui.